CFM Radio, bonsoir. Frédéric Moreau du Coq à l'Âne. Ce soir, je vous emmène avec Serge Gainsbourg pour un joli conte. A tout de suite. Du temps de sa jeunesse, il était plein d'allégresse. Il avait réussi à adopter un masque après les nombreuses et répétitives années de son enfance où il n'attendait rien sinon de grandir pour accéder à ce qu'il imaginait être un âge d'or, celui où tout est possible. Il comprenait ses longues attentes tissées de journées passées à étudier comme l'antichambre de sa vie, une vie faite de lumière et de joie. De nature plutôt réservée, il ne montrait rien d'une vivacité que ses parents espéraient voir un jour éclore. Mais il était bien vivant et s'ingéniait malgré une certaine mélancolie qu'il avait héritée de terres inconnues, quittées par ses aïeux pour échapper à un destin empreint d'une sempiternelle fatalité, à rêver d'un destin glorieux, ou tout au moins, quand la lucidité le gagnait, mené par le retour en trombe de la réalité de son quotidien, d'une existence utile et soignée, cet horizon tracé par le fusain aiguisé de la société pour laquelle on le préparait.
Je te sens captive, je te veux docile, je te sens craintive, je t'en prie ne sois pas farouche, quand me vient l'eau à la bouche. Laisse-toi au gré du courant, porté dans le lit du torrent et dans le mien, si tu veux bien, quittons la rive, partons à la dérive. Je te prendrai doucement et sans contrainte. De quoi tu peur, allons, n'aie nulle crainte. Je t'en prie, ne sois pas farouche quand me vient l'eau à la bouche. Cette nuit près de moi, tu viendras t'étendre. Oui, je serai calme, je saurai t'attendre. Et pour que tu ne t'effarouches, vois, je ne prends que ta bouche.
Il attendait donc. Il attendait beaucoup. Ce qui lui semblait drôle à certains moments, où seul à penser, il se laissait porter au loin, c'était le peu de matière qu'il sentait à proximité de lui, quand les mots famille, enfant, foyer, épouse, traversaient son esprit. Il ne savait comment expliquer, mais il ressentait un vide immense de ce côté-là, et il mettait cela sur le compte de son immaturité, dont il avait grande conscience. Grandi trop vite dans un corps d'enfant, sans courage face aux femmes, d'une extrême timidité à l'idée même de leur adresser la parole, sans aucune attirance pour les choses du sexe, résigné au silence dans les grandes assemblées. Il se réfugiait dans des rêveries et des imaginaires, et très vite, il se mettait à flotter hors du temps présent, loin de la présence humaine. Plus rien n'avait de prise sur lui, et il ne saisissait plus rien. Les jours, les mois, les années défilèrent ainsi, et il attendait encore, le sourire aux lèvres, le matin où, du haut de sa vigie, il apercevrait les rivages enchantés de son île dorée.
Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Cette chanson était la tienne. C'était ta préférée, je crois. Quelle est de préférée, Cosma? Et chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Avec d'autres, bien sûr, je m'abandonne, mais leur chanson est monotone. Et peu à peu, je m'indiffère. À cela, il n'est rien à faire. Car chaque fois, les feuilles mortes te rappellent à mon souvenir. Jour après jour, les amours mortes n'en finissent pas de mourir. Peut-on jamais savoir par où commence et quand finit l'indifférence? Passe l'automne, vienne l'hiver, et que la chanson de Prévert, cette chanson, les feuilles mortes s'effacent de mon souvenir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir. Et ce jour-là, mes amours mortes en auront fini de mourir.
Peu à peu, ses joues se couvrirent d'un poil de plus en plus dur et dense. Sa peau se marqua par endroits de taches et de plaques. Ses cheveux prirent moins la lumière et ses yeux s'affaissèrent au gré des saisons et changèrent leur couleur vive pour une clarté indistincte qui aurait pu rappeler aux plus attentifs celle des eaux dormantes des marais quand survient l'averse en automne. Il prenait un peu d'épaisseur et les eaux qu'autrefois il apercevait quand nu, il sortait de la baignoire et croisait sa silhouette dans la grande glace de la salle de bain, disparurent sous quelques couches d'une graisse à peine visible, mais présente de façon homogène sous son épiderme, qui lui aussi changea, prenant une tonalité plus jaune. Il faisait en sorte de ne pas trop s'attacher à tous ces signes, préférant les ignorer, ou plutôt, feignant de les ignorer, pour continuer à arborer, sinon sur son visage mangé de barbe, du moins dans son esprit, ce sourire patient et résigné. Parce que oui, après tout ça, il faut bien l'avouer, il était résigné à n'en pas douter. Mais d'aveu, même si par nature il se comportait avec toutes et tous, jusqu'aux animaux et même aux objets, avec une totale sincérité et une grande honnêteté, la timidité s'accommode mal du mensonge. Il avait vis-à-vis de lui-même cette faiblesse qu'ont les gens fatalistes.
Écoute, Le gars qui jazzote, t'entends? Ah, comme il saxote, il est calmé à zéro. Coco and co. Ses compatriotes au piano, celui qui pianote comme lui, c'est la coco, coco and co. Celui qui croque-note, c'est l'éther. Lui qui lui botte, t'as pas vu, il est KO. Coco and co. Celui-là qui tapote, c'est un crack, c'est un pote. Lui, c'est la fleur de pavot, coco and co. C'est un dégât du Blue Note, mais lui, ça serait plutôt la Marie-Juana.
Pour quelqu'un qui l'aurait observé depuis fort longtemps, c'eût été, sans conteste possible, l'évidence même. Cet homme n'avait pas avancé d'un pas dans sa vie. Mais le sort en avait décidé autrement. Lui, dans sa grande mansuétude, mettait plutôt cela sur le compte du destin. Dans sa situation, ne pas invoquer le destin eût signifié se passer la corde au cou et se présenter humble et dévoué à son propre bourreau. Le sort, donc, l'avait fait par accident, ce qui est plus convenable à tout prendre. Orphelin à l'âge de 30 ans. Sans plus ni mère ni père à s'occuper, sans frère ni sœur avec qui partager, il avait hérité d'assez de biens pour ne plus avoir besoin de travailler. Il avait vendu le grand appartement, avait conservé pour son usage un second bien plus petit, un deux pièces cuisine situé non loin des Tuileries, qu'il avait empli de tout ce qu'il lui semblait légitime de conserver pour ne pas insulter la mémoire de ses ascendants. Un bric-à-brac de toiles de maître et de livres, de bibelots et de meubles de valeur, amassés au fil des fortunes de générations d'hommes et de femmes, au pédigré bourgeois, sans nulle trace, aristocrate ni plébéienne. Des générations dévouées au commerce et aux affaires. Une petite fortune en mobilier, qu'il avait avec vaille réparti dans ce qui devint son antre, de telle manière qu'il y en avait partout, du parquet au plafond, et jusque dans les lieux les plus reculés.
Avec machine, moi machin, on se dit des choses, des machins, oh, pas grand chose, des trucs comme ça. Entre machine et moi machin, c'est autre chose, c'est machin, ça la rend chose, tout ça. Ce sont des trucs qui ne s'expliquent pas, ces jolies choses qu'on se dit tout bas. Machin truc chose, machin truc très chouette. Ces choses qu'on se dit, machine et moi. Des trucs qui ne s'expliquent pas, ces jolies choses qu'on se dit tout bas. Machin truc chose, machin truc très chouette, ces choses qu'on se dit, machine et moi. Entre machine et moi, machin, il se passe des choses, des machins. C'est quelque chose, ces machins-là. Comme dit machin, comment déjà? Il y a des choses qu'on ne dit pas, ou quelque chose comme ça.
Il n'avait conservé que les petites choses. Les grands objets ne lui rendant pas cette intimité chaude et protectrice qu'il trouvait avec cela. Et tout le reste était parti à la vente, ainsi que bijoux de famille, terres de chasse, bois et forêts, fermes et locaux commerciaux. Sans compter les placements familiaux chaudement conservés sur des comptes à chiffres. Et il se retrouva donc avec assez de fortune pour voir venir, comme disent les gens qui ignorent ce que cela signifie. Il quitta sur le champ son emploi, poste de peu d'avenir et d'intérêt qu'il occupait depuis 3 ans, quand au bout de ses études, qu'il avait entreprises en main de direction, son père avait fini par lui intimer l'ordre de travailler, d'être utile à quelque chose, maître mot. Et par son entremise, il devint marchand de biens chez un ami. Sans doute aurait-il préféré officier chez un antiquaire ou un galeriste. N'avait-il pas étudié des années durant l'histoire de l'art, ultime concession de son père à ses rêves d'enfant? Mais son paternel considérait avec fort peu d'intelligence, on peut avoir de l'argent, en gagner même et demeurer bête, fort heureusement. Et donc il considérait avec fort peu d'intelligence que tout homme avait le devoir d'être utile à quelque chose. Et tout se trouvait dans ce quelque chose. Et tant qu'à vendre, autant que ce fût justement une chose utile. Et quoi de plus utile qu'un toit? A-t-on déjà vu un homme, sain d'esprit, acheter un tableau avant que de posséder un mur pour l'y accrocher?
J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise, sans la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain, mais vous,
à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise, en dansant la javanaise, nous nous aimions le temps d'une chanson.
Il se soumit donc de fort mauvaise grâce. Mais sa paresse et son manque d'ambition le soufflèrent bien vite à l'oreille tous les avantages qu'il aurait à accepter. Le premier, et non des moindres, étant d'échapper enfin à la colère paternelle et à la vindicte maternelle. Parce que si le père se faisait un devoir d'obliger son fils à travailler, sa mère, elle, en bonne conservatrice qu'elle était et garante de la conservation in situ des trésors familiaux, de leur perpétuation et de leur transmission en ligne directe. Nos parents ne se sont pas échinés à gagner tout cet argent et à acheter tout cela pour que cela finisse dans une vente de charité, ou pire, chez des étrangers. Pensait-elle, par-devers le monde, sachant très bien où se situe la vulgarité en toute chose et conscient de la petitesse d'une telle pensée. Elle évitait donc d'en faire trop état. Sa mère donc trépignait et attendait sans pouvoir attendre que son rejeton unique, qu'elle avait eu tant de mal à avoir, se maria enfin, prit femme et l'ordonna à son époux, qu'elle n'avait jamais porté dans son cœur, mais auquel elle concédait une certaine considération, et à elle-même, un petit-fils, pourvu que ce ne soit pas une fille, de manière à pouvoir passer à autre chose, et ne plus trop s'en faire.
Manon. Tu ne sais sûrement pas, Manon, à quel point je hais ce que tu es. Sinon, Manon, je t'aurais déjà perdu, Manon. Perverse Manon, perfide Manon, il me faut aimer avec un autre. Je le sais.
Savoir pourquoi, ils se décidèrent, après moult tergiversations, à passer un Noël au soleil. Et le pater familias, encore plein d'espoir de pouvoir grappiller à la vie quelques plaisirs, opta pour la Thaïlande, arguant auprès de sa femme des qualités inouïes des paysages et des monuments de ce pays, pendant que lui songeait aux jeunes siamoises en short court et en débardeur, dont certains de ses amis lui avaient vanté les pratiques. Un mal leur en prit. Cette année-là, un tsunami jamais vu les emporta, et nul jamais ne les revit. Il s'installa donc dans ce qu'il baptisa son antre et commença à y vivre à son rythme, sans sortir que le strict nécessaire et sans encore moins recevoir, n'ayant aucune famille directe, de vagues cousins qu'il voyait aux cérémonies familiales mais avec lesquels il n'entretenait aucune relation suivie, leur vie étant ailleurs et en d'autres sphères. Et n'ayant presque pas d'amis, et que de vagues connaissances à force de n'avoir pas eu le courage de se lier au-delà des relations familiales et des rallyes mondains où sa mère l'avait traîné de force pendant ses jeunes années, à la recherche éperdue d'une bourrue digne de ce nom.
Écoute les orgues, elle joue pour toi. Il est terrible cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. C'est un joli thème, tu ne trouves pas, non? Semblable à toi-même, pauvre con. Voici les orgues qui remettent ça. Faut que t'apprennes par cœur cette terre-là. Que tu n'aies pas même une hésitation sur le requiem pour un con. Quoi, tu me regardes, tu n'apprécies pas. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui te plaît pas? Pour moi c'est idem, que ça te plaise ou non, je te le rejoue quand même, pauvre con. Écoute les orgues, elles jouent pour toi. Il est terrible, cette terre-là. J'espère que tu aimes, c'est assez beau, non? C'est le requiem pour un con. Ouais, je l'ai composé spécialement pour toi, à ta mémoire de scélérat. Sur ta figure blême, au mur des prisons, j'inscrirai moi-même.
Il ne se trouva donc personne pour s'étonner, voire s'inquiéter de sa quasi-disparition. Il sortait 2-3 fois par semaine pour aller s'acheter de quoi se nourrir, une cartouche de cigarette, 2 ou 3 bouteilles de scotch dont il raffolait, et les peu nombreux journaux qu'il abandonnait vite, à peine les avait-il ouverts, tant les nouvelles lui donnaient des émotions si négatives qu'il en restait bouche bée, étendu sur son divan, les yeux perdus au loin, a tenté de chasser dans son esprit tout ce qu'il avait perçu là, de la misère et de la laideur du monde. Il préférait continuer à imaginer que la beauté régnait en douceur un peu partout, et que les hommes, ses frères, baignaient tous, peu ou prou, dans le même bain tiède de quiétude que celui dans lequel il trempait à longueur de journée. Il réussit cependant, et malgré son peu d'appétence pour la compagnie, devenu bien plus que timide, ennuyé par les conversations, et tous les efforts que demande une relation, quelle qu'elle soit. Il réussit à se lier avec ses voisins. Rien de bien poussé, mais il mit juste ce qu'il fallait de douceur et de bonjour pour sentir autour de lui suffisamment de chaleur et de présence humaine pour ne pas tout à fait sombrer dans la misanthropie. Et il conservait toujours le même sourire, sans chercher la compagnie. Il ne répondait jamais avec mauvaise grâce aux quelques sollicitations des autres occupants de l'immeuble. Et tout le monde trouvait cela normal.
Gainsbourg et son Gainsborough ont pris le ferryboat. De leur lit, par le hublot, ils regardent la côte. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Gainsbourg et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
en jour, mois après mois, une fois installé chez lui, dans son antre, comme il se le disait, après avoir pris soin de bien accrocher ses toiles aux endroits qui lui semblaient le plus approprié, après avoir disposé ses objets rares et ses richesses de manière à en être entouré de toutes parts, après avoir rangé ses livres avec le soin qu'il aimait porter aux objets qu'il chérissait, en leur parlant et en les remerciant de toutes ses histoires et savoirs qu'ils contenaient, et lui avait apporté sans bradigner. Il finit par se trouver fatigué. « Je suis épuisé, disait-il, plusieurs fois par jour, à haute voix, comme s'il espérait qu'en révélant cette vérité à tout ce qui l'entourait, quelque chose ou quelqu'un allait le consoler et le cajoler. » Son installation lui avait pris des semaines pendant lesquelles il n'avait guère eu l'attitude pour penser à autre chose qu'à ce qu'il devait faire. Aussi, une fois cette période passée, ses pensées, ses rêveries revinrent avec encore bien plus de force et d'âpreté. Baigné du regard de toutes ces merveilles, de toutes les couleurs, formes et matières de ces tableaux uniques, il sentit soudain le poids des ans et la vérité criante, qu'il avait jusque-là repoussée pour ne pas laisser place à autre chose qu'à son espoir fantasmé de vivre une vie remarquable. Un jour viendra, se disait-il sans cesse.
Tu es belle, vue de l'extérieur. Et là, je connais tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en. Va te faire voir, va faire voir ailleurs. T'es roux doudou, tout mou tout doux est en postérieur. Il est beau, vu de l'extérieur. Malheur à moi qui ai pénétré à l'intérieur. C'était bon, ça évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va faire voir ailleurs. T'es gros plo-plo, tout beau, tout chaud, et ton gros pétard. Il est beau, vu de l'extérieur. Qu'est-ce qui m'a pris, grand Dieu, de m'aventurer à l'intérieur? C'était bon, ça évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va faire voir, va faire voir ailleurs. Tes deux doudounes, tes gros ballons et ton petit valseur. Il est beau, vu de l'extérieur. J'aurais dû me méfier, pas me risquer à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va faire voir ailleurs. Et sans délai, et tes boîtes à lait, et ton popotin. Il est beau, vu de l'extérieur. Pauvre de moi, qui me suis risqué à l'intérieur. C'était bon, ça, évidemment. Mais tu sais comme moi que ces choses-là n'ont qu'un temps. Va te faire voir, va te faire voir ailleurs. Il est beau, vu de l'extérieur. Mais tu sais comme moi tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est pas beau, même assez dégoûtant. Alors ne t'étonne pas si aujourd'hui je te dis va-t'en.
Il s'allongea pour éviter que la mélancolie qu'il sentait monter en lui ne le prenne par surprise. Il s'allongea donc et tira sur lui le vieux châle afghan qui avait toujours fait la paire avec le divan. Il se roula dans l'épaisse étoffe et la tira jusque sous son nez. Il sentit de tous ses poumons le parfum âcre de la laine et cette odeur éveilla en lui de vieux souvenirs, d'anciennes sensations, les nostalgies d'enfant. Et cette peur enfantine revenait, cette crainte permanente d'un danger caché sous chaque jour du calendrier, comme si la vie entière n'était que cela. Une succession répétée de pièges et de chausse-trappe. Il ne voyait pas, et n'aurait jamais pu voir que tout cela venait de son incapacité à vivre la réalité. Son inaptitude à comprendre que la vie ne se jouait pas en imagination. Mais chaque jour, chaque minute, à chaque pas.
Thank you.
Et si Dieu était juif, ça t'inquiéterait, petite? Sais-tu que le Nazaréen n'a fait rien, n'en a rien? Et s'il est fils de Dieu, comme vous dites, alors?
Dieu est juif. Je fais Dieu.
De l'israélite Karl Marx, un beau bouquin. Et le trio bolchevique, la troïka des purs, eh bien, tous trois de race sémite, je le prouverai tout à l'heure.
Dieu est juif. Je fais Dieu. Dieu est juif. Je fais Dieu.
À partir de ce moment-là, il passa le plus clair de son temps allongé sur le divan. Un livre ouvert à portée de la main, une théière toujours pleine, quelques biscuits posés sur une assiette, un ou deux cendriers pleins, des paquets de cigarettes entamés, le gros briquet d'argent posé sur le tapis. Un univers fait de peu de choses, de peu de mouvements, de peu d'importance. Il lisait, mais très vite, les livres lui tombaient des mains et il se retrouvait souvent à sursauter d'un coup, au bout d'un camion ou d'un voisin. Dans cette éternelle position, les yeux au plafond, le bras en suspens au-dessus du vide, le livre pendant ou déjà tombé, une cigarette se consumant, abandonnée à cheval sur le cristal tranché du cendrier carré. Alors il se souriait, s'étirait et murmurait quelque chose comme « Ce n'est pas grave, mon vieux. Il y a des choses bien plus graves. » Et là, il sentait un nœud se former au niveau de son ventre, sa gorge serrée et ses yeux se mouiller. Mais vite, vite, il refoulait ses émotions d'un geste de la main, comme s'il voulait repousser, loin de son visage, loin de ses yeux, quelque insecte volant, ou bien une idée malsaine, vite passée.
your eyes, baby blue. So I would like to make love with you.
De rester étendu, il ne parvint plus à dormir la nuit. Il fêtait en permanence dans un état second qu'il quittait de plus en plus rarement. Quelqu'un qui l'aurait vu alors aurait pu changer à un homme pris par la drogue qu'à autre chose, tant il semblait dans un état second. Et c'est à cette époque-là qu'il prit conscience, alors même que son cerveau tournait au ralenti, qu'il prit conscience donc qu'un phénomène étrange se passait tout autour de lui, sans qu'il pût l'expliquer ou seulement le percevoir. Il aurait bien voulu se confier à quelqu'un pour partager ses craintes et comprendre, mais malgré son état lymphatique, son instinct lui fit comprendre qu'il n'y avait plus personne d'assez proche autour de lui pour parler d'une chose pareille. Depuis quelques semaines, il sentait dans son appartement une présence étrangère, sans être capable de raisonner assez pour savoir de quoi il s'agissait. Puis un soir, quand allongé, comme à son habitude, il suivait des yeux le rayon finissant du soleil, qui au travers des rideaux qu'il laissait à moitié tirés pour ne pas souffrir trop de la vive lumière d'été, projetait de fines taches de lumière sur le mur en face de lui, il s'aperçut soudain que manquait sur une étagère encastrée une figurine de terre cuite, minuscule vestige d'une société depuis des millénaires disparue dans les déserts arabiques. Il se leva d'un coup, poussé en avant par la surprise de voir là ce petit espace sous d'un vide. Alors il scruta l'étagère, puis le tapis, au cas où par accident ou magie, l'objet serait tombé en arrière ou vers l'avant. Rien. Pas une trace, pas un débris. Seul le support de la petite statuette restait là, à sa place. Désormais seul et inutile. La nuit suivante, il ne put dormir. Non que la disparition de l'objet l'affecta plus que cela, mais la chose avait quelque chose de si étrange et de si bizarre, au milieu de son quotidien monotone, qu'il ne pouvait trouver le repos et s'abstraire comme à son habitude. Et donc, tout cela le conforta, dans l'idée que quelqu'un, à moins que ce ne fût quelque chose, agissait autour de lui de façon insidieuse et à son insu. Les jours d'après, il vécut sur le qui-vive en permanence. Et du coup, il devint très nerveux, trop. Ne réussit pas à retrouver la moindre quiétude. Et son cerveau, aux aguets, tournait sans cesse à la recherche d'une réponse, d'un détail, d'un indice pour résoudre cette énigme. Mais les disparitions se succédèrent.
Tourne-toi.
Non.
Contre moi.
Après la statuette, une gravure de Picasso qu'il avait accrochée dans les toilettes manqua à l'appel au matin. Puis ce fut d'une petite huile flamande qui s'évanouit de la cuisine en même temps qu'un petit masque inuit suspendu dans l'entrée. Chaque matin, il faisait le tour de sa collection et, sans armes, constatait l'étendue de la catastrophe. De nombreux livres manquaient également à l'appel et petit à petit, son antre se vidait et il n'osait plus regarder comme il le faisait auparavant. Avec plaisir, à présent que de grands vides se formaient sur les murs, sur les étagères et dans les bibliothèques. Il décida de faire la liste intégrale des objets et œuvres qu'il avait rassemblés, et chaque jour il biffait un geste triste, ceux qui avaient disparu durant la nuit précédente. Il ne sortait plus, ne vivait plus. Mais avait-il seulement jamais vécu? Il ne vivait plus de peur qu'à son retour, il trouve un vide intégral. Mais malgré sa présence et son attention permanente, les objets continuaient à s'effacer. Bientôt, il ne restait plus grand-chose. Et un matin, c'était le début de l'automne, il n'y avait plus aucune ligne qui ne fût barrée sur la liste. Et 2 semaines plus tard, à la demande de la concierge, très soucieuse de ne pas avoir vu le monsieur du 4e depuis 2 semaines, on fit ouvrir la porte de l'appartement. À l'intérieur, on ne trouva qu'une liste d'objets. Une liste comme celle que l'on fait pour les courses. Et chaque ligne était barrée. Bonsoir.